France Inter, le 18-20.
577 députés, 348 sénateurs, un suffrage universel direct qui date de 1962, la devise, le drapeau, dans l'ensemble. Ah, vous la connaissez plutôt pas mal, cette 5e République qui fête cette année ses 60 ans. Vous êtes dans la bonne fourchette, en tout cas, concernant les députés. Quand vous ne tombez pas pile, c'est un peu plus compliqué pour les sénateurs, mais bon, j'avoue que moi aussi, je me suis trompée dans le nombre de sénateurs, donc voilà. De toute façon, on verra que vous êtes aussi nombreux à vouloir le supprimer, ce fameux Sénat. Vous citez très facilement les grandes figures de la 5e République, vous commencez majoritairement par De Gaulle et vous enchaînez avec Mitterrand. Tout ça, en gros, c'est pour l'histoire. Après, dans le fonctionnement, vous avez beaucoup de choses à dire. L'Assemblée nationale manque de diversité. Pour vous, le Sénat, vous êtes presque 50% à penser qu'il pourrait disparaître. Vous êtes d'accord pour réduire le nombre de mandats de députés, pour introduire le climat dans la Constitution et pour un référendum veto sur certaines lois. Vous êtes plutôt très sévère sur l'usage que le président Macron fait de la Constitution dans son exercice du pouvoir. Passionnant sondage, en tout cas, de l'Institut BVA pour France Inter, pour l'Obs et pour Sciences Po, alors que la réforme des institutions, elle est en cours. Alors, pour vous, ben allons-y. Les députés, est-ce que vous les voudriez réellement moins nombreux? Est-ce que vous voudriez, comme beaucoup le disent d'ailleurs, qu'on réduise donc le nombre de leurs mandats? Est-ce que le référendum, ça vous paraît une bonne chose? Mais comment est-ce que ça peut réellement marcher? Est-ce que le pouvoir présidentiel doit arbitrer ou indiquer la marche à suivre? On refait la Constitution ce soir dans le téléphone sonne, rien que ça.
Fabienne Sintès. Le téléphone sonne.
Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Et bienvenue dans le téléphone sonne, Pierre, on vous écoute.
Bien, alors donc, on apprend que les Français connaissent la 5e République, et ça je le pense, mais on apprend aussi qu'elle est en crise. Et moi je pense que la 5e République est vraiment en crise. On se rappellera donc très vite ce qui s'est passé en 2017. Au deuxième tour pour les présidentielles, il y a quand même eu 25% d'abstention et 10% de blanc que M. Macron a gagné face à Marine Le Pen. Et en fait, il a obtenu 47% donc des inscrits. Pire, au deuxième tour des élections législatives, les gens qui votent la loi, les députés, il y a eu 57% d'abstention. On a donc une assemblée nationale qui est légale, mais qui est illégitime, finalement. Alors moi, je pense qu'il faut donner de l'air démocratique à la 5e République, sans que l'on passe à la 6e. On peut faire trois mesures, selon moi. Et ce n'est pas en réduisant le nombre de députés ou de sénateurs que ça va donner plus de la démocratie.
Allez-y, Pierre.
Alors, trois mesures. Le référendum d'initiative populaire, bien sûr contrôlé, où il faudrait 1 million ou donc 2 millions de gens qui signent. Supprimer le 49-3 définitivement. Un gouvernement doit trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Et mettre et faire parler plus les petits partis en mettant à minima, j'ai bien dit à minima, 25% de proportionnel pour l'élection des députés et non pas les 10 petits pourcents minables que Macron propose.
J'ai juste une question, Pierre, avant qu'on puisse répondre à votre question. Moi, je vois pas bien en quoi ce que vous proposez changerait ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire ce que vous appeliez, vous, l'illégitimité du pouvoir.
L'illégitimité d'une assemblée qui est élue à 57% d'abstention parce que les gens ne se sentent pas soit suffisamment représentés, soit on ne leur donne pas assez la parole. Si on veut leur donner la parole, il y a donc le référendum où le peuple pourrait engager donc ce référendum. Si les Français veulent être mieux représentés, il faut qu'ils le soient à l'Assemblée. Et je pense qu'avec 25% de proportionnel minimum, et en supprimant le 49-3, eh bien, les gens qui sont à l'Assemblée, élus par le peuple, ils le représenteraient mieux.
Allez,
pas en passant de 577 députés à 400, qu'ils le sauront mieux.
On va débattre de ce que vous nous dites et d'autres choses aussi, Pierre, jusqu'à 20h au téléphone. Sonne grâce à Edouard Le Serre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président, vous êtes directeur général, pardon. Point trop n'en faut, tout de même.
Non, on parle de Constitution.
Adjoint même de la société d'études et de conseil BVA. Bah dites-moi, mais qui êtes-vous, monsieur Le Cerf? Bonsoir Olivier Duhamel.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, président de la Fondation nationale des sciences politiques. Vous n'êtes président de rien, donc. Et vous non plus, Karine Bécard.
Si, je suis président de la Fondation nationale des sciences politiques.
Bah voyez, comme quoi je viens
de
le dire.
Et de l'association, président de l'association des joueurs de pétanque du Luxembourg.
Et ça, c'est important. Karine Bécard.
Présidente de rien. Non, là, vous êtes trompée pas.
Vous êtes presque présidente du service politique de France Inter. On salue Yael Gauz au passage.
Voilà.
Edouard Le Cerf, c'est intéressant ce que nous explique Pierre, parce que cette idée d'illégitimité à cause des 20% du premier tour, de cette élection un peu particulière, on l'entend depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'on on peut dire oui, cette élection est légitime, ou est-ce qu'on peut douter de sa légitimité? Allons-y, franchement, mettons les pieds dans le plat là-dessus.
On va mettre les pieds dans le plat, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la Constitution, de mon point de vue. Si, bien sûr, ça a un rapport avec le fait que le président de la République est, depuis 1962, élu au suffrage universel direct, et donc que l'on projette, les Français projettent dans ce président de la République leur légitimité, tout en la questionnant ensuite. Il pose aussi la question des élections législatives qui suivent, et effectivement, la synchronisation aujourd'hui de l'élection présidentielle et des élections législatives font que l'on a un mouvement de décrue de la participation. Mais c'est une question, je vais la prendre un peu plus large que ce que la façon dont l'a posé votre auditeur. La question qu'il y a derrière celle-là est une question de légitimité de ce pouvoir instauré par la Ve République. Ce pouvoir présidentiel qui est reconnu par les Français comme étant extrêmement présent, qu'ils critiquent d'ailleurs, et dont ils disent qu'il faudrait, dans l'équilibre des pouvoirs, en donner un peu plus à l'Assemblée nationale. Alors là, la question est plus sur est-ce que voter, c'est représenté. Moi, je pense que Olivier Niamel sera plus calé que moi pour dire est-ce qu'il y a une crise de représentation et donc une crise de constitution par rapport à cette représentation-là. J'en suis pas sûr. Un point qui est très intéressant dans ce qu'a dit votre auditeur aussi. Il disait, avec une critique qui est quand même très lourde, sur la Ve République, en tout cas sur son fonctionnement, il disait, il faut vraiment la faire bouger, sans pour autant aller vers la Ve République. Mmh. Et c'est un point très intéressant, parce que nos sondés disent exactement la même chose.
Exactement, on est vraiment à 50-50, on l'aime, mais on veut bien la modifier. On ne veut pas la changer, on veut la modifier.
Oui, moi je pense que quand on regarde l'enquête dans le détail, on voit bien que le concept de Ve République est un peu un concept soit de constitutionnaliste, on en a un éminent avec nous, soit un concept devenu un peu un concept peu politique. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit la France insoumise ou d'autres qui disent qu'il faut une Sixième République. Pour les Français, et c'est une des forces de la Cinquième République, ils nous disent que cette Cinquième République ne fonctionne pas, il faut la faire bouger, mais ça reste la Cinquième.
53% des gens, quand même, aimeraient effectivement passer à une Sixième République.
Oui, mais quand vous voyez la proportion de plus de 90% des gens qui disent qu'il faut la faire évoluer, vous voyez, il y a pas mal de gens qui disent qu'il faut vraiment la faire évoluer, y compris dans le fond, et qui disent pour autant, on peut rester sous la Cinquième.
Alors on verra comment on l'a fait évoluer, effectivement, on parlera forcément du référendum et du 49-3, qui était aussi dans la question de Pierre. Olivier Duhamel, quand même, est-ce qu'on est en crise de représentation ou pas?
Écoutez, d'abord, sur les 47% de Macron par rapport aux inscrits, c'est très curieux de souligner ça, parce que c'est tous les présidents de la Ve République, sauf Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen en 2002, ont eu moins de 50% des inscrits au second tour. Donc il n'y a pas du tout un phénomène particulier pour l'élection présidentielle de Macron. Donc ça, c'est un petit peu un tropisme anti-Macron qu'on a absolument le droit d'avoir. Mais dans l'analyse, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, oui, il y a un problème
de représentativité.
Il y a un problème beaucoup plus grave qui parcourt toutes les démocraties occidentales, de crise de la démocratie, de rejet des partis politiques massifs, de surgissement de nouvelles forces ou de nouvelles personnalités. Ça, c'est un phénomène de d'éruption populiste, etc. Donc, qui dépasse de beaucoup le cadre de la France. Ce qui est assez particulier dans la situation française, c'est que, à part le Royaume-Uni, nous sommes des très rares démocraties, et pour d'une autre manière les États-Unis, à pratiquer le scrutin majoritaire et pas un scrutin proportionnel. Donc c'est quand même, en effet, un problème, probablement, que quand... c'est pas le seul, mais c'est un problème quand quelqu'un, une force politique comme le Front National, représente 15 ou 20% et qu'il a 8 élus. C'est pas normal. Mais il y a un autre problème. Il y a longtemps eu un problème de représentation des femmes qui est en train de se régler au
25%
fur et à mesure
de parlementaires aujourd'hui. Au féminin.
Ah oui, de parlementaires, mais 47% de députés.
C'est ça. De parlementaires. Femmes. On est dans les parlementaires. Oui, absolument. Vous avez raison de le souligner.
Oui, donc ça
n'a jamais existé.
Je dis, ce problème est réglé pour les députés et on passe de l'être dans l'autre. Il y a un vrai problème aussi de représentativité sociale. C'est-à-dire que les employés et les ouvriers sont massivement exclus. À la différence des enseignants surreprésentés, des professions libérales surreprésentées, etc. Donc, on ne peut pas dire que ce soit satisfaisant sur le plan de la représentation. Et une des façons de le régler, c'est en effet de la proportionnelle.
Alors, il y a une autre manière, visiblement, de le régler pour les gens. Tout le monde nous parle du référendum. Comme s'il y avait quelque chose de miraculeux à l'idée d'organiser un référendum, Édouard Le Cerf.
Oui, je pense que dans la question du référendum, pas dans celle de la proportionnelle, dans la question du référendum, il y a quelque chose qui traverse toute l'enquête qui dit que les Français ont peut-être envie de pouvoir interagir plus souvent que ce qu'on leur demande. Même si on voit que la participation a tendance à baisser, Ils nous disent, sans doute parce qu'aujourd'hui ils sont dans une société où en permanence, on leur demande leur avis, et pas seulement les sondages, en permanence on vous demande votre avis, votre opinion, on vous demande d'agir, on dit participez, soyez avec nous, soyez effectivement dans le changement, dans la transformation. Aujourd'hui ils entendent ça partout. Pourquoi est-ce qu'ils seraient privés de ces éléments-là lorsqu'il s'agit de la vie politique? Alors, ils disent... Le référendum, c'est un moyen de pouvoir nous exprimer plus souvent que ce qu'on nous laisse le faire. Un moyen de pouvoir éventuellement bloquer une loi qui ne serait pas bien, éventuellement pouvoir refléter une opinion très largement majoritaire à travers... Il y a aujourd'hui des sites internet, des organisations qui essaient d'attraper tous ces éléments-là. Et moi, je trouve assez logique, en tout cas, qu'ils le demandent. C'est une manière de dire, on vit dans un autre temps et pas seulement un temps où, à un moment, on donne le pouvoir et à un autre moment, on le retire ou on le conserve à la personne qui vient de l'avoir.
Karine, avant de retourner au standard.
Mais en même temps, on a le sentiment que c'est un peu du fantasme. Parce qu'au moment où il y a vraiment des référendums qui sont organisés, je regardais les chiffres des derniers référendums organisés, par exemple sur le passage du septennat en quinquennat, voilà, les gens ne sont pas venus massivement se prononcer sur cette question-là. Et d'ailleurs, c'est rigolo de regarder, c'est intéressant plutôt de regarder les propositions que nous fait Pierre, du plus de référendums, donc supprimer le 49-3, comme si on recourait tous les matins au 49-3 pour faire passer une loi sous Rocard, donc il y a très très longtemps, effectivement. On l'a beaucoup utilisé, mais enfin aujourd'hui très très peu, et faire parler les petits partis, quand on regarde dans un média comme sur France Inter la quantité de fois où on peut faire justement parler les petits partis, on est sans arrêt aux prises avec l'INA, avec le CSA, pardonnez-moi.
Laissez l'INA en dehors de ça.
Avec le CSA qui nous rappelle à l'ordre en nous disant rééquilibrer, vous ne faites pas parler suffisamment à la majorité. Au final, les petits partis, ils ont quand même une expression forte.
Et ça deviendrait effectivement une terrible usine à gaz pour ce qui nous concerne. Enfin, ça, après tout, c'est notre problème. Bonsoir, Olivier.
Oui, alors bonsoir Fabienne.
Et on vous écoute Olivier, allez-y.
Oui, donc moi je me pose effectivement un petit peu comme d'habitude quand j'interviens, vraiment absolument à peu près sur tous les domaines en faux, sur ce que vous dites. C'est que moi je suis plutôt un fan de la 4ème République et je pense que l'origine même de la 5ème République devrait nous donner honte. Mais bon, ça c'est vraiment un parallèle.
Je comprends pas bien, mais...
C'est parce que c'était la guerre d'Algérie qu'on appelait les événements et que c'était juste un régime d'état d'urgence et qu'on est resté dedans. Donc ça me paraît un petit peu malsain, mais bon, bref. En fait, moi je pense que souvent, effectivement, déjà c'est un régime qui est exécutif, c'est un régime présidentiel, alors qu'il devrait être parlementaire pour être véritablement démocratique. On a fait l'inversion du calendrier, justement, entre le Parlement, les élections parlementaires, pour que, justement, ce soit majorité présidentielle. Et en plus, on n'a toujours pas compris que au lieu d'avoir des représentants, il faudra avoir des mandataires, c'est-à-dire qu'on élit des gens pour un programme, pas pour leur tête, et après ils font ce qu'ils veulent. Donc pour moi, dans cette 5ème République, il y a sans doute quelque chose de bien, mais je ne le trouve pas. Donc est-ce que, dans le cadre actuel, ma question c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à un régime parlementaire proportionnel avec mandat, et non avec on élit quelqu'un sur une photo, et après il fait ce qu'il veut. Et je pense que les gens iraient peut-être un peu plus voter, et on ne serait pas dans un déni de cette démocratie où quasiment une personne
merci,
sur deux
Olivier.
Vote.
Merci.
Si justement il se disait, bon en fait mon vote va y avoir une conséquence parce que j'ai voté pour un programme. Il retournera à voter.
Merci
voilà.
Olivier. Alors en même temps, moi j'ai un peu le sentiment qu'on vote parfois pour des programmes, Olivier Duhamel, non?
Oui. Moi, j'ai envie de dire que je suis assez d'accord avec une nuance et une objection. La nuance, c'est que je parlerai pas de la 4ème République, mais plutôt des démocraties qui nous entourent, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, c'est-à-dire un système primo-ministériel, une démocratie parlementaire dirigée par un Premier ministre qui rend compte en permanence devant son Assemblée. Tony Blair, dans son mandat, on avait calculé qu'il est allé 378 fois rencontre, alors que le Président de la République, lui, n'a aucune obligation de ce type. Donc, idéalement, une 6ème République primo-ministériel, parlementaire dirigé par un Premier ministre, je trouve que dans l'idéal, c'est plus démocratique. Maintenant, l'objection, sauf révolution, c'est infaisable. Pourquoi c'est infaisable? Très vite.
J'adore le sauf révolution.
Sauf révolution. C'est infaisable, premièrement, parce que les Français sont très attachés à l'élection directe du président, très attachés. Et deuxièmement, il faudrait une révision constitutionnelle. Est-ce qu'on imagine un type élu président de la République et dire « Oh, c'est pas normal cette façon de choisir, ils m'ont pris moi qui suis si mauvais, il faut absolument arrêter et supprimer ce truc-là » Impossible. Jamais un président proposera la suppression de l'élection directe du président et les Français n'en veulent pas. Donc impossible, sauf révolution.
Puis il faudrait une révolution culturelle aussi, parce qu'on n'a pas du tout la culture du compromis qu'on a quand effectivement on est dans un système parlementaire où plusieurs... plusieurs parties essaient de se mettre d'accord sur un programme effectivement à appliquer.
Absolument, donc continuez à rêver, Olivier.
Pauvre Olivier, et en même temps, Édouard Le Cerf, moi quand je vois le rôle, ce que les gens aiment du rôle du président de la République dans votre sondage, on a l'impression, ils hésitent terriblement. Est-ce que ce président doit être au-dessus, justement, ou est-ce qu'il doit avoir réellement les mains dans le cambouis? On est quasiment à 50-50. Au fond, on est content de les lire, mais on ne sait pas très bien quel rôle on a envie de le voir jouer.
Vous avez absolument raison. Ils sont assez contents de voir quelqu'un qui puisse avoir les mains dans le cambouis tout en ayant de la hauteur. D'ailleurs, on reproche en général au président de la République les deux. Et en même temps, c'est-à-dire effectivement soit d'être effectivement de s'occuper des petites affaires des Français, etc., ou d'être complètement perché, de ne pas être dans leur proximité. La raison, c'est une critique qui est assez permanente sur ce président de la République. Où est-ce qu'on veut le trouver ? On veut le trouver, on lui demande un peu de tout. Il faut qu'il soit au four et au moulin, il faut qu'il ait de la hauteur et de la proximité.
Et c'est marrant parce que ça rejoint ce que vous dites dans les présidents qui ont marqué la Ve République de ce que disent les Français. Ceux qui sont en tête, finalement, c'est ceux qui avaient cette espèce de posture au-dessus, les besogneux, pardon, je vais le dire comme ça, comme Nicolas Sarkozy ou même François Hollande, finalement, sont très 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 loin. On a François Mitterrand qui est très haut, on a évidemment le général de Gaulle qui dépasse tout le monde, mais finalement, ce dont on se souvient aujourd'hui, c'est ceux qui n'avaient pas tellement les mains dans le cambouis.
Ah non, moi je suis pas d'accord là, Fabienne, si vous permettez.
Mais je vous en prie.
Je pense que dans la lignée de ce que vient de dire Édouard Le Cerf et de la demande contradictoire des Français, on veut un président dans la verticalité et dans l'horizontalité. On veut un monarque et on veut quelqu'un qui soit en empathie avec nous. Et je pense que les deux présidents qui ont réussi le mieux cette combinaison de la monarchie et de la démocratie, de la verticalité et de l'horizontalité, sont De Gaulle et Mitterrand. Souvenez-vous comment De Gaulle... Souvenez-vous, vous étiez prenez tous... Mais enfin, vous avez vu des documentaires.
Un petit peu, ouais.
De Gaulle en 1965.
Hein,
mais
on
qu'est-ce qu'elle veut, la ménagère? Un réfrigérateur, donc il se mettait en empathie avec les Français. Et Mitterrand, il avait une manière absolument incroyable de cumuler le monarque inaccessible et le chébran, quoi. Non, c'est...
Un dernier élément par rapport à, vous disiez, l'ambiguïté des Français. Il faut aussi voir dans ces chiffres le fait qu'il y a deux manières d'analyser la Ve République, en tout cas les institutions. Il y a naturellement une manière de l'analyser, comme l'ont fait vos auditeurs, en prenant, on va dire, un peu de recul, en regardant la manière dont les institutions fonctionnent, en prenant un peu de recul et de hauteur. Et puis, il y a une manière très politique aussi. Il faut aussi voir dans la manière dont il s'exprime sur la Ve République, sur son fonctionnement, sur la manière dont Emmanuel Macron s'en empare, sur ses prédécesseurs, une vision qui est à chaque fois politique. La Ve République a quelque chose, c'est une évidence que je veux dire, mais elle est extrêmement politique. Et les Français, du coup, la regarde en fonction aussi de qui est le président à ce moment-là.
Et ça rejoint le premier appel d'ailleurs qu'on a eu, Karine.
Ce qu'on perçoit aussi, moi je trouve, c'est finalement quand on parle de De Gaulle, qui était quand même un personnage à part, François Mitterrand, il y a le trio aussi, il faut rajouter normalement Jacques Chirac. Il me semble. Voilà, on est quand même, il faut reculer de 20 ou 25 années. Quand on regarde ce qui se passe maintenant avec les derniers, donc les trois qui ont succédé à Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, ensuite François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron, on se rend compte quand même que les Français accordent du crédit ou de la légitimité très peu de temps et en fait aiment de plus en plus faire tomber leurs icônes. C'est-à-dire ils les ont autant adorés qu'ils vont beaucoup aimer les détester. Et je trouve qu'Emmanuel Macron, vraiment ce qu'on perçoit là en ce moment, c'est ça. C'est-à-dire qu'on lui a tout passé, on était prêt à tout accepter pendant 10 mois et puis tout à coup, il n'y a plus rien qui passe.
Alors après, c'est peut-être trop tôt pour demander ce qu'on pense du président Macron qui est là depuis un an par rapport à ceux qui ont fini de gouverner en quelque sorte.
Oui, bien sûr, un effet de proximité, absolument.
Bonsoir Étienne, pardon. Bonsoir Étienne.
Oui, Étienne. Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute Étienne.
Donc pour le président de la République, bon, c'est le pouvoir exécutif, donc il faut quelqu'un qui ait du charisme, etc. Mon appel concernait plutôt l'Assemblée nationale et le système de représentativité des députés. Pour moi, je voulais introduire l'idée de démocratie liquide, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose qui est notamment prôné par le parti pirate allemand. Il s'agit de supprimer les députés pour donner un vote direct aux citoyens, donc il faut des moyens technologiques, et donc les citoyens s'expriment directement sur les lois. Donc,
mais qui les fait, pardon? Mais à un moment,
voilà,
il manque une étape.
Évidemment, des commissions parlementaires à conserver pour préparer les textes de loi, mais ensuite, les citoyens s'expriment directement sur chaque sujet.
Merci Étienne. Et que ça s'appelle la démocratie liquide, que ce soit le parti pirate ou autre, ça revient, Édouard Le Cerf, à dire ce qu'on disait depuis le début. Il y a une envie, un besoin d'avoir une représentation nationale qui serait différente, qui aurait un rôle qui serait plus important et une implication des citoyens surtout qui serait plus importante.
Oui, ça découle de ce dont on a déjà parlé. C'est à la fois le rôle du président de la République dont on reconnaît qu'il est important, qu'il est utile, mais qu'il a trop de pouvoir, et donc il faut chercher qui seraient les contre-pouvoirs. Et le contre-pouvoir ne passe pas forcément, nous disent les Français d'ailleurs, par l'Assemblée nationale, et ça c'est intéressant, sans rebondir exactement sur ce que dit votre auditeur, mais malgré tout, il parle de démocratie liquide, il parle de pouvoir direct. On a posé la question aux Français, on leur a demandé quels sont les véritables contre-pouvoirs au pouvoir exécutif, au président de la République. Et là, vous avez quelque chose qui est absolument fascinant. Le premier contre-pouvoir, c'est vous. Ce sont les médias. Le second, ce sont les réseaux sociaux, bien avant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils considèrent aujourd'hui que c'est là, on va dire, où il y a du mouvement, où il y a de l'actualité, où il y a effectivement une forme de communauté, on va parler pour les réseaux sociaux, et bien c'est là que se situent les contre-pouvoirs aujourd'hui. Alors que certains imaginent pouvoir rendre ça de manière plus concrète en instaurant un système de démocratie liquide ou solide, que sais-je. Mais en tout cas, c'est assez logique.
Et ben pour aller dans le sens de ce que disait Étienne, je voudrais qu'on écoute Lucien. Bonsoir Lucien.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Eh bien, j'avais une question. Ce serait pour savoir, justement, comme l'Assemblée nationale est censée représenter les citoyens, je voulais savoir pourquoi, en fait, ce ne sera pas des citoyens tirés au sort qui participeraient à l'Assemblée nationale.
Merci Lucien pour cette question. Olivier Duhamel, là aussi, le serpent de mer, la bonne vieille histoire des citoyens tirés au sort, mais ça dit la même chose, que les citoyens soient mieux impliqués.
Sauf que on peut discuter à tout le moins le postulat selon lequel les députés, et je vais avoir l'air de contredire ma réponse de tout à l'heure, mais c'est pas très grave, selon lequel les députés doivent être à l'image de la France. Pensez à l'autre intervenant qui a dit « Moi, je voudrais voter pour des idées, pour des programmes. Si je vote pour des idées, pour des programmes, je vote pas pour des gens qui soient comme moi. Je vote pas parce que, étant prof, je veux qu'il y ait des profs, étant ouvrier, je veux des ouvriers. Et je vote pour quelqu'un qui ça renvoie plutôt à l'idée de la volonté générale, c'est Jean-Jacques Rousseau. Je vote pour quelqu'un qui va chercher l'intérêt général dans la conception que moi j'en ai. Et à ce moment-là, c'est la question de la représentation se pose de façon totalement différente. Et d'ailleurs, on dit que dans la conception même du député, le député est le député de la France entière. On l'appelle le député du Jura, le député de...
De la nation.
Il est le député de la nation, absolument. Pour cette idée-là que la représentation, c'est la représentation, non pas des caractéristiques sociologiques du peuple français, mais de la volonté du peuple français.
Bonsoir Marie-Hélène.
Oui.
Et on vous écoute Marie-Hélène, soyez la bienvenue.
Oui, donc je suis pour le maintien du Sénat et donc la légère majorité des sondés qui sont pour le maintien du Sénat.
Comme vous dites légère majorité, on est à 53-51 dans mes souvenirs.
51,
oui, parce que 53-51
c'est
plus que 100.
Légère majorité.
51 pour supprimer le Sénat, pardon, 47 pour le conserver.
C'est ça, et 51 pour supprimer. Expliquez-nous pourquoi, bon, Marie-Hélène.
Premièrement, parce que c'est une assemblée, actuellement en tout cas, qui est formée de gens qui ont des parcours d'élus pour l'immense majorité et qui par conséquent connaissent par là même les territoires, la politique et ont en général le recul nécessaire pour en faire profiter leurs décisions, ce qui me paraît très important.
Vous êtes sénatrice vous-même ?
Ah.
Vous êtes élue ?
Absolument pas.
D'accord.
Alors, et je précise que je ne vote pas à droite. C'est très important. Bon. Non, c'est très important. Je ne défends pas l'actuel. C'est un parti où on ne s'écharpe pas, où on arrive assez souvent à s'entendre. Et c'est un parti qui prend son temps. Ça pourrait être probablement corrigé et amélioré, mais... le bicamérisme ou caméralisme, je ne sais comment il faut dire.
Les deux se disent.
Merci. nous nous trouvons ici devant un partage, un équilibre, ce sera mieux.
Merci.
Voilà. Et c'est pour ça que je suis pour le maintien du Sénat.
Merci.
Sans être sénatrice, ni quoi ni qu'elle.
Merci Marie-Hélène. Comment est-ce qu'on explique ? Est-ce que c'est aussi parce qu'on ne sait pas très bien finalement à quoi ils servent, les sénateurs, Edouard Le Saff, qu'on se dit aussi facilement qu'on pourrait s'en passer ?
Alors, on pourra parler du Premier ministre après, parce que c'est encore c'est très intéressant aussi. Le Sénat ressort pas forcément extrêmement grandi de notre enquête, en tout cas, vous êtes français, et votre auditrice avait un point de vue, on va dire, original.
C'est un euphémisme. Cette enquête est catastrophique pour le Sénat, cher Edouard.
Le Sénat n'est considéré comme ayant le pouvoir en France, alors c'est vrai qu'il le partage, mais par 6%, et lorsqu'on leur demande, français, est-ce que parmi les différentes institutions, quelle est celle qui devrait en avoir plus? Le Sénat, 10%, l'Assemblée nationale, 51%. On est vraiment dans des disproportions. Mais si l'on se souvient ce à quoi doit servir le Sénat, on n'est pas très loin de ce que nous expliquait votre auditrice. C'est-à-dire que c'est une représentation des territoires, des terroirs, une forme de prise de recul. Elle a, de ce point de vue-là, bien reflété ce que veut exprimer le Sénat.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas exactement ce que c'est le Sénat? C'est pour ça qu'on se dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on peut s'en débarrasser. Ou est-ce que c'est que le rôle du Sénat, finalement, a été dévoyé par les sénateurs eux-mêmes, au fond?
Je pense que c'est beaucoup parce que persiste. Je pense que, si vous voulez, on a une sorte de fond culturel en matière constitutionnelle, hein, un fond de sauce là qui perdure dans chaque blanquette de nos grands-mères. Et le fond sur le Sénat, c'est que c'est un truc de vieux,
c'est
un truc lent, c'est un truc périmé, et que donc oui, vous avez raison.
C'est des vieux rentiers en quelque sorte.
On est sous les dorures, qu'on mange bien, qu'on fume bien.
Non seulement on ne sait pas très bien, mais on ne sait pas très bien, et on a cette arrière-pensée et ce fond. Mais pour votre auditrice, le principal argument en faveur du Sénat, c'est l'amélioration des lois. Mmh. Et Benjamin Franklin, quand il a dû convaincre les pères fondateurs de créer deux chambres, alors que la mode révolutionnaire, c'était le monocamérisme, c'était une seule chambre, il y avait une tasse de café qui venait d'être servie, brûlante, et puis il y avait une tasse vide. Et il a pris la tasse de café brûlante, puis il l'a jetée dans la tasse vide, et puis il l'a remis dans l'autre. Et je crois que c'est Washington qui lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, la deuxième chambre, j'enlève le texte trop chaud.
Et autre chose intéressante aussi sur ce que s'exprimait cette auditrice et les précédents, c'est-à-dire qu'on a là tout le contraste. Mmh. Elle nous expliquait, elle, qu'il était important d'avoir des personnes qui aient un parcours politique, non seulement qu'ils soient ancrés, mais qui aient un parcours politique, qu'ils soient capables de faire presque des professionnels de la politique. C'est tout ce que certains autres décrivent de manière, et un certain nombre d'auditeurs précédents. Et là, on voit bien l'équilibre sur les Français qui peuvent être tiraillés entre c'est important d'avoir des gens qui sont capables de parler de sujets qui sont certes souvent complexes, et d'autres qui disent mais laissons ça à la population en général, elle sera tout à fait capable, que ce soit par le tirage au sort ou par le référendum.
Deux des trois référendums perdus dans l'histoire de France étaient des référendums qui supprimaient le Sénat.
Alors justement,
45 et 69.
Au final, les gens ont envie de le garder. Ouais, sur le tirage au sort, tout de même, c'est quelque chose qui revient toujours en boucle. Quand on voit, malgré tout, la majorité qu'on a aujourd'hui, les 311 députés désormais de La République En Marche, qui, pour une grande partie, alors certes, n'ont pas été tirés au sort, mais sont des gens qui ne connaissaient pas les codes, le fonctionnement, le règlement de l'Assemblée, ils ont quand même mis 6, 8, 10 mois à comprendre exactement, et encore, je pense, pas tous, comment tout ça fonctionnait. Donc, j'utilisais le mot fantasme tout à l'heure, on est quand même toujours là dans le registre, à mon avis, du fantasme.
Je ne veux pas être désagréable envers notre auditrice Marie-Hélène précédemment, mais on sentait à sa voix qu'elle avait un certain âge, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a, Édouard Le Cerf, un clivage de génération, de toute façon, dans l'envie de conserver un certain nombre de choses de nos institutions.
Vous avez quoi contre les vieux, vous ?
Mais absolument rien, et je trouve que Marianne est formidable, d'ailleurs on l'embrasse. Mais est-ce qu'il y a un clivage de génération ou pas ?
Oui, il y a forcément un clivage de génération, mais qui est plus un clivage qui est dû à la connaissance de ces institutions. Et ensuite, le clivage de génération est un clivage que l'on retrouve. Le clivage principal, c'est le clivage politique. Mmh. En fait, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant dans cette constitution. C'est-à-dire que la manière de la regarder, je le disais tout à l'heure, mais je le répète, c'est vrai que c'est important de voir que c'est politiquement. Et donc, vous allez retrouver des partis qui sont plus sur une réforme un peu violente et qui seront nourris d'un certain nombre, qui seront traversés de sympathisants un peu plus jeunes. Mais pour autant, la vision ensuite qu'ont les Français, si je dois moyenniser de la politique, n'est pas forcément extrêmement variante. C'est vrai qu'il y a un recul, ou en tout cas un écart un peu plus fort chez les générations les plus jeunes, qui n'ont pas la même histoire à travers la Ve République, et donc qui peuvent éventuellement avoir un détachement plus important. Sur l'âge de la Ve République, on a parlé tout à l'heure, en ouvrant l'émission, vous expliquiez que les Français connaissaient pas si mal la Ve République. Moi, ce que je trouve un des éléments absolument fascinants sur la manière dont les Français s'expriment sur la Ve, c'est ce qu'ils en connaissent, et du coup, ce qu'ils n'en connaissent pas. Mmh. Ce qu'ils n'en connaissent pas, ou ce qu'ils en connaissent, reflète une Ve République qui est antédiluvienne. C'est-à-dire qu'elle a... C'est pas un reproche, elle a toujours été là. Vous avez certes 47% des Français qui sont capables de dire que la Ve République, c'est 1958. Mmh. Et vous en avez 29% qui disent que c'était avant, et 22% qui disent que c'était avant 1950. Le suffrage universel, c'est pareil. On ramène tout ça très en arrière. On raccroche ça au général de Gaulle. Donc naturellement, ça lui donne un côté un peu suranné. Le regard générationnel peut du coup faire varier, mais le regard politique est un élément plus fort dans la façon dont vous l'appréciez.
Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi, et ça, finalement, ça découle de ce que vous dites aussi, c'est qu'on aime ces symboles, alors qu'on a l'impression que ces symboles sont assez désuets. Donc le drapeau, l'hymne, toutes ces choses-là, les gens, ils
la
sont finalement
très...
La devise républicaine sur les frontons, etc. Tout ça, les gens, ils sont particulièrement attachés, ce qui a effectivement un côté particulièrement désuet, pourquoi pas aussi.
Sur les symboles, si je peux dire un mot, c'est ce qui est étonnant, je trouve. D'ailleurs, ce qui est formidable dans les sondages, enfin, moi je trouve, c'est quand on est surpris. Et là, il y a quand même pas mal d'éléments dans cette enquête.
Parce que finalement, la Marseillaise n'est pas si appréciée que ça, etc. Moi, j'étais surprise.
La devise écrase le drapeau. Or, le drapeau, à chaque mondial de foot.
C'est tous les 4 ans seulement.
Oui, mais d'accord.
Oui, mais justement, parce que politiquement, on ne le sort pas.
C'est sur tous les bâtiments, c'est sur le drapeau.
Oui, mais parce que politiquement, Olivier Duhamel, on ne sort pas le drapeau. On ne va pas manifester avec un drapeau, contrairement aux Américains, contrairement aux
Américains. Fabien ne va pas manifester avec une devise non plus.
Non, mais on va manifester au Royaume-Uni, on va manifester aux États-Unis, on va manifester dans plein d'endroits avec un drapeau du pays. Nous, on le sort pour les matchs de foot, vous avez raison. Ouais.
Mais, j'aurais cru que leur drapeau, quand même, comme symbole, battait la devise. Or, la devise écrase drapeau marseillaise. La Marseillaise, n'en parlons pas. La Marseillaise, combien de fois dans une année on entend la Marseillaise? Mais en permanence.
Mais à chaque match de foot.
Non, mais pas que, aussi à chaque cérémonie aux Invalides en l'hommage d'un soldat tué, mais aussi à chaque début d'allocution d'un président de la République solennel, mais aussi, etc., etc. On l'entend beaucoup plus que liberté, égalité, fraternité.
Mais sur les symboles, là aussi, il y a du clivage politique. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la Marseillaise, ils sont deux fois plus nombreux parmi les sympathisants du Rassemblement National et des Républicains à mettre la Marseillaise en avant. Donc là aussi, il y a aussi une vision politique des symboles.
Bonsoir, Jean-François.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Jean-François, on vous écoute.
Alors, moi, ma question, c'était pourquoi cette obstination de vouloir faire voter le week-end aux dernières élections, on savait à l'avance que le taux de participation serait très faible, puisque ça tombait sur des ponts, etc. Donc, on a des pays voisins qui font obligation de voter et qui votent en semaine.
Alors, pas tous. Hein.
C'est-à-dire, si on votait, il y a souvent du faux vote obligatoire. C'est-à-dire, il est obligatoire, mais il n'y a pas de sanction. Ça sert pas grand-chose.
C'est le cas de nos voisins, effectivement.
Si on le mettait en semaine sans que le jour du vote soit déclaré férié, la participation serait pire. Elle serait pire. Donc, ce n'est pas une solution en soi de le mettre en semaine. Alors, si vous voulez qu'on vote en le mettant en semaine, il faut faire un jour férié. Mais comme on a déjà beaucoup de jours fériés, si vous en mettez un de plus, ce n'est pas formidable pour l'économie française, donc c'est un peu compliqué.
Oui, la participation n'est pas forcément, contrairement à ce que dit votre auditeur, elle n'est pas, directement liée au fait que ce soit le dimanche. Entre les différentes élections françaises, alors c'est toujours le dimanche, mais qu'il fasse beau, mauvais, qu'il y ait un pont, pas de pont, c'est difficile d'en tirer une conclusion, en tout cas une théorie sur la participation liée à la météo ou au jour de la semaine. Et les pays dans lesquels on peut voter un jour de la semaine, qui est effectivement une culture différente, la participation pour autant n'est pas forcément formidable.
Là où ça marche, en revanche, c'est une solution qui marche un peu, si on cherche vraiment une solution qui ne fasse plus voter du style technologique, c'est de la mettre sur deux jours. C'est-à-dire, si vous pouvez voter le samedi et le dimanche, là, il y aurait plus de participation.
Et s'il y avait une sanction, ça marcherait.
Alors voilà, et vote obligatoire avec sanction, on en pense quoi?
Bah écoutez, mais ça va les obligations, quoi. Tu n'as pas le droit de ça, maintenant on va t'obliger à ci, on va t'obliger à ça. Non, si le taux d'abstention s'élève, c'est qu'il y a un problème et c'est un thermomètre qui nous le dit. On va pas. C'est bon, là. J'ai pas le droit de dire ci, j'ai pas le droit de dire ça. On va me traduire en justice si je fais ci, on va me truc si je fais ça. Il y a 30 ans, je serais venu ici dans le studio en fumant. Maintenant, etc.
Il n'y a pas que 40 ans. Moi, j'ai fumé dans les studios d'Inter, donc ça fait pas si longtemps. J'ai à peine 28 ans.
Non, c'est juste pour faire vieux et vous montrer que les vieux peuvent tenir le coup.
Santiago, c'est vous le dernier. Comme d'habitude, essayez de faire très court. Mais je sais que vous n'allez pas faire court. C'est pas grave, allez-y.
Oui, bonsoir. En fait, je revenais sur la question de la suppression du Sénat. Personnellement, j'y suis favorable parce que j'estime que cette institution n'est pas suffisamment alternée pour être démocratique. La démocratie, c'est l'alternance, pour moi, avant tout. Et le Sénat, depuis qu'il existe, n'a jamais changé de bord, ou enfin quelques mois, sous je sais plus quand. Et je voulais poser la question à Monsieur Duhamel. On pourrait remplacer le Sénat par le Conseil environnemental, social et environnemental, le Conseil économique, social et environnemental, qui est une institution en fait qui n'est que consultative, mais qui fait du travail et qui surtout représente beaucoup mieux les ouvriers, les employés les corps constitués qui ne sont pas toujours représentés au sein du Parlement, ni à l'Assemblée, ni au Sénat.
Santiago, je vous coupe pour qu'Olivier Duhamel ait le temps de vous répondre. Est-ce qu'on peut remplacer l'un par l'autre ?
Oui, on pourrait. C'est une idée assez intéressante. À sa manière, c'est ce que De Gaulle avait tenté de faire en 1969. le problème des référendums, c'est que si on fait ça par, si on fait ça pas par référendum, le Sénat ne sera jamais d'accord. Donc c'est impossible. Donc il faudrait le faire par référendum, et en plus un référendum douteux qui se passe de passer par le Sénat. Mais les référendums, on vote sur le sujet, et puis on vote aussi sur autre chose, sur l'humeur. Oui, comme disait Woody Allen, the answer is no, what's the question? Voilà. La réponse est non, quelle est la question?
Oui, on vote toujours à côté. Alors maintenant, s'il y a plus de référendums, peut-être qu'on se mettra à voter dans la question au lieu de voter à côté. Une dernière chose, Édouard Le Cerf, il a parlé de pas assez alterner le Sénat. Ça rejoint ce que les gens veulent sur la réduction des mandats, notamment à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas imaginer la même chose aussi avec les sénateurs, au fond?
Alors, je pense qu'il parle de manque d'alternance parce que, à cause du mode d'élection des sénateurs, effectivement, qui n'est que la conséquence d'autres élections qui ont lieu auparavant, et donc il ne changera pas aussi rapidement. Il y a une forme de viscosité sur le changement de majorité au Sénat.
Et puis des mandats alignés les uns derrière les autres.
Le Sénat est à droite ou à droite, disait Guy Carcassonne.
Voilà. Oui, il y a eu une petite période de gauche en 2011.
Allez, merci à tous. Merci d'avoir participé à ce téléphone sonne. Tiens, demain, même heure, même endroit, ce sera Anne Hidalgo. Vous pouvez déjà préparer vos questions.